ce matin, 9h, dans le bureau de Par-Jupiter.
Oui, intéressant, ça. C'est bon à savoir, ça. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais avec cette ramette de papier, là?
Je me renseigne sur le pays de notre invité, la Mauritanie.
Attends, parce que c'est qui déjà, l'invité? C'est... Ah oui, Berouk.
Ouais. Berouk, c'est au Liban, non?
Ah bah voilà.
Mais non, Berouk, c'est un groupe de musique folle. Tu connais Charline Berouk?
Si, Berouk, tu connais pas la musique?
Mais non, c'est un écrivain mauritanien d'expression française qui est né en 57 à Attar.
Ah oui, 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 ce Berouk-là.
Ok, donc manifestement, tu as lu le livre de notre invité, je vois.
Oui, je l'ai.
Ça m'étonnerait quand même, Alex, que tu l'aies lu.
J'ai très bien lu son livre que j'ai beaucoup aimé, Paris, sur la ville,
non,
magnifique.
Mais, non, c'est Paria son livre, pas Paris déjà.
J'avais mal lu.
Oui, t'as mal lu le titre déjà. Donc,
vraiment, on peut compter que sur soi-même ici.
Oh non, c'est fou.
Après, on connaît bien la Mauritanie, Charline.
La capitale de Mauritanie, Nouakchott.
Ouais, et la République islamique de Mauritanie est un état d'Afrique du Nord-Ouest situé entre 15 et 27 degrés de latitude nord et 5 et 17 degrés de longitude ouest.
C'est pas demandé de lire la page Wikipédia non plus, ça va.
D'accord.
Rappelle-nous ce que tu faisais au début de cette conférence de rédaction.
Qu'est-ce que tu faisais au début de cette conférence de rédaction, Charline?
Eh bien, je lisais une documentation très fournie sur la Mauritanie, figurez-vous.
Voilà.
Que je la lisais très très bien, c'est juste ça.
Et le livre de l'invité, Charline, tu l'as lu ou pas?
J'ai pas fini de le relire, mais j'ai encore toute la journée quand même. Donc,
Charline, boulot!
Ah, mais j'ai déjà lu au mois de mai en plus!
Boulot!
France Inter et bienvenue au sein de la branche radicale des fanatiques de la rigolade, dont voici la devise: on peut commander une fois 1000 sondages, mais on peut pas commander 1000 sondages sur une fois. Voici le sommaire. Le débat politique français tourne autour de l'islam. Heureusement, il s'empare aussi de l'islamisme et de l'islamophobie, mais peut-être pas assez de l'anti-islamisme. Et attendez, l'audience vient de monter en flèche. Restez avec nous.
Et alors là, partout, des Arabes. Que ça.
Là où Bolloré passe, le journalisme trépasse, et il passe partout, Bolloré. Et pas que lui, d'ailleurs. Les grands patrons français n'achètent pas la presse. Ils s'achètent la presse. Ça arrive tous les 4 matins, d'ailleurs.
Messieurs, je veux lancer un journal. Un grand quotidien du matin, tirage 1 million d'exemplaires.
Quelle tendance?
On m'en fout, n'importe quoi. D'ailleurs, le journal s'appellera n'importe quoi.
La Mauritanie était une destination prisée par les Français dans les années 90 et 2000. Et puis le terrorisme a été gangréné le désert. Mais depuis 2011, le pays est épargné par les attaques et les touristes reviennent tout doucement. Les Français en particulier?
Non, je suis blanc de peau, mais noir de cœur. L'Afrique est un cri qui vient de l'intérieur.
Et à mes côtés aujourd'hui, Alex Vizorek.
Mais oui, bonjour Charline Vanhoenacker. Je vous présente le reste de l'équipe à 17h20. Celle pour qui le micro est une scène, donc un endroit où on peut tout faire, mais surtout n'importe quoi. C'est vous, Constance.
Oui, bonjour les amis.
De quoi on va parler?
Je vais vous annoncer quelque chose de très important.
Wow. Oh là là, 17h30, celui qui fait le marché avec les Français, mais surtout celui qui fait marcher les Français, c'est Guillaume Meurice.
Bonjour à toutes et à tous, je suis allé au salon Millipol. Aujourd'hui, des milliers d'armes exposées dans une ambiance un petit peu anxiogène, on va dire.
Non, je dirais pas anxiogène.
Pardon, non, alors du coup, non, pas anxiogène.
Et enfin, 17h40, notre seule chance de gagner le Goncourt, n'ayant pas pu être des nôtres, je vous demande d'accueillir Clara Dupont-Monod. Bonjour.
On va parler du livre de notre invité.
Car voici celui qui va remettre la mosquée au milieu du village. Je vous laisse nous le dire. Vous êtes
Berouk.
Oui.
Je vous l'avais dit ou pas dit?
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bienvenue Berouk.
Merci.
Vous êtes écrivain mauritanien. Vous avez publié un très joli roman au mois de février et qui s'intitule Paria, chez l'éditrice Sabine Vespizer. Alors, je l'ai lu, je l'ai aimé, et par chance, vous êtes de passage à Paris cette semaine, à l'occasion d'un petit voyage en France. Vous êtes aussi journaliste, vous avez d'ailleurs fondé le premier journal indépendant en Mauritanie. Alors, quand un journaliste écrit des romans, et on va prendre ce roman, Paria, il y a souvent un fond sociétal. Alors, dans ce livre, c'est le récit d'un père en prison, qui alterne avec le récit de son fils, un drame familial les a séparés. Alors ici, Berouk, quel aspect de la société mauritanienne voulez-vous nous montrer?
À plusieurs aspects. D'abord, et ce livre met un accent là-dessus, l'accès l'aspect des villes, des villes perdues, des cités perdues dans les nouvelles villes d'Afrique. Mmh. Des cités perdues où il y a toute une jeunesse perdue, où il y a une criminalité nouvelle, où il y a une nouvelle manière de regarder le monde. Parce que ce sont des gens chez nous qui viennent souvent du désert et qui se retrouvent en une génération, et ils se retrouvent citadins. Citadins, mais citadins avec une vision différente de la citadinité, une vision souvent violente. Et de l'autre côté, je voulais montrer aussi un peu le désert, la vie que nous avons vécue, la vie que beaucoup de gens vivent encore, le nomadisme, que ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas de l'exotisme, c'est une vie. Là-bas, il y a des gens. Il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui y vivent dans le désert.
Des
caravaniers, des nomades, tout simplement, continuent à vivre comme l'ont vécu leur père pendant des dizaines de générations. Et c'est un monde qui est en train de mourir, mais c'est un monde qui respire encore, qui vit encore et que nous allons, je crois, perdre bientôt.
Les traditions ancestrales, donc, et la modernité de la ville. Il y a donc une opposition entre ce qu'on appelle les gens des sables et les gens des villes.
Oui,
le pays est un peu divisé comme ça?
C'est une opposition très essentielle. Il n'est pas divisé le pays parce que nous, quand nous sommes dans la ville, nous restons des hommes de sable.
Ah.
Nous avons encore notre nomadisme dans nos têtes, nos préjugés dans la tête, nos vieilles idées dans les têtes. Tout ça, c'est pas toujours formidable, mais c'est nous.
Vous décrivez très très bien la prison. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous avez pu y entrer?
J'ai risqué la prison plusieurs fois, mais je n'y suis jamais allé.
Ah oui?
Du temps que je faisais la presse indépendante, c'était pas tout à fait facile. Mais les journaux étaient censurés, l'imprimeur il les retenait. Bon, mais nous n'avons jamais fait de la prison, c'est déjà quelque chose.
D'accord.
Non, j'ai pas fait de la prison.
Mais comme vous avez risqué, vous êtes allé un petit peu en repérage, quoi.
Oui, je suis journaliste, j'ai été dans les prisons. J'ai visité des prisons où étaient embastillés des prisonniers politiques, des prisonniers de droit commun. J'ai des amis à moi, des parents.
Mm-hmm. Donc il y avait de quoi recueillir des témoignages pour.
D'ailleurs, souvent, les pays d'Afrique sont souvent une grande prison.
Clara Dupont-Monod, à propos de prison.
Oui, une des deux voix dans votre livre, c'est le père qui est justement en effet emprisonné. Et à un moment, arrive dans la prison un monsieur de la haute société. Et il est complètement rejeté par les prisonniers. Il est rejeté par les exclus. Ce qui signifie qu'il est exclu parmi les exclus. Ce qui signifie donc aussi que l'exclusion en fabrique une autre.
Oui, c'est un homme. En fait, c'est un fait divers qui s'est passé il y a plusieurs années. C'est un homme qui était très riche, qui a été envoyé en prison pour avoir, en fait, commandité le maître de son adversaire politique dans une petite localité de Stié, aux confins de la Mauritanie. Et ce monsieur a été refusé par les autres. Il devait payer un tribut pour qu'il l'accepte. Et il a dû payer pour qu'il l'accepte. Sinon, Voilà comment les petits prisonniers, les pauvres petits prisonniers reçoivent les riches.
Mais ça veut dire que l'exclusion fabrique de nouvelles exclusions.
L'exclusion fabrique des exclusions. On est toujours exclu quelque part de quelque chose. Mm-hmm. Souvent.
Bérouk, vous disiez, on est toujours des nomades à l'intérieur et certains comme vous vivent en ville. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Vous êtes arrivé en ville quand? Vous êtes né en ville? Bon, ou vous êtes arrivé enfant?
Je suis né en ville. Je suis né dans une ville dans le nord, à l'orée du désert. Ça veut dire que à l'époque, derrière cette ville-là qui s'appelle Yatar, il y avait des milliers de kilomètres de sable. Nous vivions dans la ville, nous passions nos vacances dans les campements et dans les oasis. Donc il y a une forte interaction. C'est une ville qui n'avait pas accepté encore, qui n'était pas encore une ville, qui hésitait encore entre être une ville du désert, une oasis du désert, ou être une ville d'aujourd'hui. Et je crois qu'elle hésite encore. Et j'espère qu'elle ne va pas choisir rapidement.
Ah oui, d'accord. Donc il y a beaucoup de villes en Mauritanie qui sont à l'orée de ce choix-là,
de
se développer en mégalopole.
Il y a beaucoup de villages qui ne sont pas des mégalopoles, qui sont des villes où il y a généralement les commodités de la vie. Mais on y rencontre aussi le nomadisme. On peut y voir des chameaux se promener. Les habitants partent très souvent dans le désert, reviennent. Et comme je voulais dire, le désert, nous, même à Nouakchott, quand nous sommes à Nouakchott, quand on a une grande villa, on essaie toujours de sortir de la ville pour aller dans le grand désert. C'est quelque chose qui nous habite et c'est notre grande fierté. Et quand on est très riche, on essaie d'avoir un cheptel. Rien que pour l'argent, cheptel de chameau, rien que pour le prestige.
D'accord.
Voilà.
La version du yacht mauritanienne, voilà. C'est le cheptel.
Vous avez trouvé.
Ok. Bolloré, voilà. Il aurait un cheptel en Mauritanie. Hein? Il aurait un cheptel en Mauritanie, Vincent Bolloré.
Il en a peut-être.
Oh, dans le port de Nouakchott, sûrement. Bérouk est avec nous. Il publie Paria chez Sabine Vespizer, un très très joli récit. Donc la Radio Pomono va nous parler tout à l'heure. On y reviendra. Puis on parlera encore de la Mauritanie. On va profiter de votre présence, Bérouk.
Merci.
He gonna take it to a private eye. Come to my house with black cat bones. I take my baby away from home. Mother, that photo, where they been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she was a bird.
Sur France Inter, Alex Vizorek avait reconnu bien sûr ce standard programmé par Djoubaka pour recevoir notre invité, le journaliste et romancier mauritanien Bérouk. Alex, pour l'entourer, qui est là ?
Clara Dupont-Mono qui parlera de son livre, et puis Guillaume Meurice qui est encore allé dans un petit salon.
Oui, j'aime bien.
Et
oui.
Constance également. Je dis pas de quoi vous allez nous parler parce que vous en savez pas plus que moi.
Je vais annoncer une nouvelle.
Oui, c'est toujours très vague.
On a bien peur, comme tous les mardis. Bérouk, on va se faire un petit résumé de l'actualité du jour en France et ailleurs, si vous êtes d'accord.
Parce que les humoristes d'aujourd'hui, qui usurpent ce nom, si vous voulez, leur rire est une matraque, c'est des garde-chures du politiquement correct.
Le journal de presque 17h17.
À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
On commence par les titres.
En visite à Rome pour rencontrer le pape François, le Premier ministre Jean Castex a affirmé que la France ne saurait se concevoir sans l'évocation de son lien millénaire avec l'Église catholique.
Et oui, je pense que hier, la loi contre le séparatisme était en mode avion au Vatican.
Lien qu'il n'a pas hésité, Jean Castex, à qualifier de filial.
Ouh là là, attention, parce qu'en général, avec l'Église, des relations filiales finissent rapidement à devenir incestueuses.
L'aile gauche de la Macronie veut peser dans la campagne présidentielle.
Et la grosse nouvelle, il y a donc une aile gauche à la Macronie.
Et les brèves.
Et oui, l'aile intellectuelle des brèves voudra peser en fin de journal, mais comme pour la Macronie, ça serait étonnant qu'elle y arrive.
Et on commence par la présidentielle, avec une sortie inattendue que c'était...
Oui, vous lisez maintenant ma partie.
Vraiment,
vous, quoi,
Je pense qu'à moyen terme, je ne viendrai plus. Hein, je vous enverrai les deux parties.
C'était de l'informatif, je l'ai plus pour moi. Et donc, je poursuis. Philippe Chevalier, celui de Chevalier et Las Palès, a dit ce matin sur CNews vouloir voter pour Marine Le Pen.
Eh oui, on a envie de lui dire que l'extrême droite, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais hier, il était sur Non-Stop People, et il avait encore un poil de lucidité.
C'est la première fois, moi, que je parle de politique. Parce que j'estime qu'un artiste n'a pas à s'engager.
Ouais. Et oui, et il aurait dû, oui. Et oui, un petit peu en rester là. Mais il s'est pas écouté. Il s'est pas écouté dans la foulée. Il est parti tout droit. Et il s'est lancé dans une excellente justification.
Moi, j'ai un peu mal pour mon pays.
Ouais.
Et je dis que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et je trouve qu'on ne s'aime pas assez soi-même. Vous savez, moi, ma femme est sénégalaise. Donc là-dessus, j'ai pas de leçon à recevoir.
Et oui, si ça, c'est pas convaincant. Ouais. Écoutez, il était à deux doigts d'ajouter. En plus, j'adore le mafé.
Tout autre chose, la mairie de Paris a créé un service anti-fake news.
Et ils vont avoir du boulot. Ça fait plusieurs fois que j'entends Anne Hidalgo dire qu'elle va gagner la présidentielle.
En Italie, oui. La gauche s'impose aux élections municipales et conquiert la ville de Rome.
Et oui, on aurait aperçu autour du Colisée un politicien français en train de faire des démarches pour changer de nom et devenir Stefano Il Folle. Très très connu là-bas. Pour
retour en France et au Covid. Le projet de loi vigilance sanitaire est examiné à l'Assemblée nationale cet après-midi. Il est question de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022.
Et oui, un débat qui va donc décider de ce que va faire Francis Lalanne pour tous les samedis à venir jusqu'au 31 juillet.
Et en raison des mauvaises conditions climatiques au printemps et cet été, l'année 2021 est désastreuse pour la récolte de miel en France. Elle a été réduite de moitié.
Eh oui, Arnaud Montebourg a aussitôt annoncé qu'il se retirait de la présidentielle pour lancer une grande remontada des abeilles.
En médecine, sachez que les ophtalmologistes seront en grève pour la première fois à partir du 22 octobre.
Eh oui, on attend 800 manifestants selon les organisateurs et 1600 selon leurs patients atteints de diplopie.
Qui voit double.
Parce qu'ils voient double. Les chiffres devaient vous aider.
Apple dévoile une chiffonnette. Attendez, Apple dévoile une chiffonnette pour nettoyer l'écran de son iPhone et elle sera vendue 25 euros.
Oui, mais si vous trouvez ça cher, dites-vous qu'a priori, c'est le premier accessoire Apple qui sera compatible avec toutes les prochaines mises à jour. Donc ça, je dis chapeau.
Sport, une enquête a été ouverte après qu'un footballeur ukrainien a célébré un but concédé par sa propre équipe.
Eh oui, ne plus savoir dans quelle équipe on joue. C'est le Aurore Berger du foot ukrainien.
Et enfin, voici ce qu'on attend jusqu'à Nouakchott, on les attend, les brèves.
Vous n'allez pas être déçus. Perpignan, poursuivi par la police, des jumeaux échangent leur place dans la voiture alors qu'ils ont le même taux d'alcoolémie. Et oui. Et pour ceux qui se demandaient si, en plus de chromosomes, les jumeaux partageaient aussi le même QI, je pense qu'on a un début de réponse.
Allez, la dernière.
Et la dernière, c'est aux États-Unis. Nita, 45 ans, affirme avoir régulièrement des trios avec Dieu. Son mari n'est pas toujours au courant que le Seigneur les a rejoints, nous dit-elle. Et si je peux aider cet homme-là, quand elle crie Oh my God, c'est qu'a priori, ils sont trois.
Merci Alex Vizorek.
Mais de rien, Charline.
Bérouk a adoré les brèves. C'est universel.
J'ai senti.
Les brèves, je les sens. Évidemment, je l'ai senti aussi.
J'ai adoré le ton.
Ah, voilà.
L'insolence.
Bien sûr, évidemment. Il y a un peu de presse satirique.
Il y a beaucoup d'économies.
C'est un bon résumé. C'est un bon résumé.
Vous avez bien cerné, Bérouk. Voilà. Alors, vous savez, cette période pré-présidentielle nous offre une multiplicité de sujets de débat. L'islam à l'école, l'islam à la plage, l'islam à la montagne, l'islam fait du tricot et l'islam joue au bilboquet, au hasard. Et pourtant, c'est l'islamisme qu'on voudrait combattre, soit la politisation de l'islam à des fins, on peut dire, totalitaires. Et pour ça, il faudrait éviter déjà peut-être l'amalgame.
Je crois qu'il faut ouvrir les yeux, Jean-Baptiste. Nous avons aujourd'hui 80 millions de Français qui sont étrangers.
Même si on n'est que 65 millions en France.
Non, ce sont les chiffres de l'INSEE, les rapports sont tombés, je les ai sous les yeux.
Ok,
125% des immigrés sont arabes.
Vous avez bien conscience que votre chiffre n'existe pas.
C'est pas moi, c'est l'INSEE. Les chiffres sont formels, je crois qu'il faut dire aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre.
C'est Yes vous aime, le collectif d'humoristes sur Internet. Alors Bérouk, vous observez un petit peu, vous, les débats en France depuis la Mauritanie. Vous y percevez une obsession autour de l'islam amalgamée à l'islamisme?
J'y perçois souvent, le plus souvent, j'y perçois de l'ignorance. L'ignorance de ce que l'islam, l'ignorance de ce que vivent les musulmans. Parce que moi, je connais l'islam ordinaire. L'islam de la petite ville où j'ai grandi. tu es considéré comme traditionnaliste, où il n'y a jamais aucun rejet de n'importe qui. Dans cette petite ville, pour vous donner un exemple, nous avions une sœur, on l'appelait Manuela, et nous avions un prêtre, qui s'appelait Pierre, et qui vivait au sein de la plation. Parce que, en fait,
pas quand ensemble, les Français... Hein, ils vivaient pas ensemble.
Non. On y vient. Mais voilà, il y avait un regard. Personne n'a jamais considéré que Maniella est une étrangère ou une. Personne n'a jamais jeté les pierres sur Pierre.
Ouais.
Et on vivait complètement. Ça veut dire que dans cette ville, il y avait aussi des homosexuels. Il y avait pas beaucoup, mais il y en avait, mais personne ne leur a jamais rien dit. Et pourtant, une ville traditionnelle. Bon, pour le prêtre, la sœur, les vieux du village se demandaient souvent si Pierre qui est si gentil, pourquoi Pierre qui est si gentil ne se marie pas avec Amenuela qui est si belle.
Ben oui, mais c'est vrai, pourquoi pas le mariage de prêtre.
Pourquoi.
Donc vous êtes en train de nous dire que dans un village traditionnel musulman, il n'y a pas eu de grand remplacement par les catholiques.
Non. C'est ça. Je veux dire qu'il n'y a aucun régime. Que l'islam que nous connaissons, c'est un islam normal. C'est pas un islam politique. Personne n'avait l'idée de version politique. Mmh. Et je crois que la politisation de l'islam, qui est venue à peu près dans les années 90, ainsi de suite chez nous, et partout, je crois qu'elle est due à un certain rejet d'abord de l'islam traditionnel et une certaine nouvelle orientation politique prise par certains radicaux. Mm-hmm. Parce que il y avait le communisme qui servait, il y avait le socialisme, et maintenant il y avait l'islam. En fait, une idéologie qui est vite embrassée par la jeunesse qui ne sait plus où aller, par la jeunesse qui veut avoir une réponse aux choses d'aujourd'hui. Par une jeunesse qui aurait voulu voir un certain développement, une certaine...
La jeunesse désabusée s'est tournée vers l'islam politique
et vers imposer
la charia
tournée dans les années 70-80, elle s'est tournée dans l'extrême gauche, mm-hmm. dans le communisme, le marxisme, ainsi de suite. Mais je crois que c'est un phénomène politique avant d'être un phénomène de l'islam islamique.
Mm-hmm. Est-ce que on fait aussi parfois l'amalgame entre islamophobie et anti-islamisme que
anti-islamisme. On fait islamophobie.
Moi, c'est deux choses très différentes.
De mon point de vue, l'islamophobie, c'est une forme de, c'est en fait une forme de racisme.
Oui, de rejet.
Tout à fait une forme de racisme, de rejet. L'anti-islamisme, c'est la chose qui est la plus partagée, la chose la mieux partagée dans le monde islamique.
Ouais.
L'Arabie Saoudite à la Mauritanie.
Vous avez été amené à parler de ces sujets-là depuis trois semaines que vous êtes en France.
Comme ça. On me pose souvent la même question. Pourquoi l'islamisme radical n'a pas de prise en Mauritanie? Et je réponds souvent pas la même chose. D'abord, nous avons une tradition de l'islam soufi. L'islam soufi, c'est un islam qui refuse de s'impliquer dans la vie d'ici-bas, qui refuse de s'impliquer dans la politique.
Qui reste côté spirituel, qui est plutôt
spirituel
apaisé.
Et qui refuse surtout toute forme de violence. Mm-hmm. Et c'est ça. Et il y a des confréries religieuses très fortes en Mauritanie, par exemple, et au Sénégal. Et c'est ce qui explique la présence forte de ces confréries. C'est plus que la Mauritanie et le Sénégal ont été plus ou moins protégés contre l'extrémisme religieux. Mm-hmm.
Donc vous nous dites qu'il y a un problème avec l'islam en France.
Oui, il y a un problème avec l'islam en France.
Non, mais c'est important de simplifier.
L'islam en France, quand on parle on dit toujours les représentants de l'islam et en présence des imams. Il n'y a pas de clergé dans l'islam. Un représentant des musulmans peut être un ingénieur ou un pilote ou un médecin ou un joueur de football. Ouais. C'est pas forcément l'imam qui représente le.
Oui, je vous avais dit qu'il allait remettre la mosquée au milieu du village.
Rappelons quand même que Dieu n'existe pas.
Journaliste et romancier mauritanien qui est avec nous, ainsi que, alors attention, accrochez-vous Bérouk, ainsi que Constance qui est là.
Ouais. Oui.
Mes amis, l'heure est grave Non, je n'ovule pas aujourd'hui. Jamais le mardi, c'est un principe. Non, l'heure est grave, car le 21 octobre, ce sera la journée mondiale des vers de terre. Et j'en profite pour faire mon coming out. Oui, j'aime les vers, et oui, par conséquent, j'aime la poésie.
Oh.
Ver de terre, mystère de la création, petit animal fouisseur, indispensable, dans la terre comme dans le sable. Tu aères les sols, transformes la matière organique en nutriments. Bravo pour la technique et merci infiniment. Adorable lombric, ressemblant à un étrange pénis égaré, tu te promènes sous nos pieds, sans GPS, et tu retrouves toujours ton adresse. Tu es magique, petit lombric. Merveilleux petit être sans bras ni jambes, tube reliant une bouche à un anus. Tu es beau comme un ange fessu. Paysagiste unijambiste, je t'aime, petit Nem. Non, ne rougis pas, relève la tête. Oui, les méchants disent que tu ressembles à une vieille chaussette, mais ne les écoute pas. Ce sont des trous à caca, car tu es plus précieux, bel animal courgette, qu'une lunette des toilettes. D'accord, oui, c'est vrai, tu n'as pas d'yeux, et tu n'as pas d'oreilles non plus, et tu te promènes toujours tout nu, mais tu ne te plains jamais. Oh Dieu, que tu es courageux, indispensable petit spaghetti, fabuleux mini zizi. Oh, je suis triste, parce qu'à cause de nous, tu disparais sous notre béton, pardon. Tu étouffes sous nos pesticides, génocide. Tu régresses sous notre agriculture, tu payes notre facture. Et tu finis même parfois dans nos assiettes, quand la salade est mal lavée par cette conne de Georgette. Pourtant, ver de terre, nous aurions tellement à apprendre de toi, tu es moderne. Ainsi, quand un petit ver dit à sa maman...
« Maman, j'aimerais bien avoir des frères et sœurs. »
La maman a la sagesse de lui répondre « Non, petit ver, parce qu'un ver, ça va. Trois vers, bonjour les dégâts. » Quelle leçon. Sous nos pieds, tu rampes, tu grouilles, tu mâchouilles sans jamais nous casser les couilles. En surface, tu nous régales de tes excréments. Petit tourbillon incongru sorti de ton cucu. Nourriture pour terreau. Bravo, bravo. Crouic, crouic. Je t'entends, oui, je t'entends m'attendre pour me dévorer gourmand. Tu es impatient, coquin, de passer au buffet. Quand je passerai de la vie à trépas, je me réjouis de te servir d'encas. Et je n'ai pas peur que tu me bouffes de l'intérieur. Et j'espère que tu m'apprécieras de la nounoute jusqu'au bras. J'imagine déjà j'imagine déjà le grand banquet avec toute ta famille qui sera là pour me recycler. Avez-vous tous des prénoms dans votre famille? Qui d'Éric le lombric ou de Pierrot l'asticot mangera mon dos? Peut-être qu'Albert le gros ver tombera sur une vieille connaissance au fond de ma panse. Chalor, Thomas le ténia. J'aurai vraiment ce jour de banquet le sentiment d'avoir donné de ma personne et je sais que chacun repartira avec un petit bout de moi. Et ce petit bout de moi en eux va s'insinuer petit à petit dans leurs esprits, tel le ver dans la pomme, tel le ver qui creuse, invisible à tous mais présent. Devant ma tombelle, oui, c'est le féminin de tombeau, devant ma tombelle, mes amis lèveront un dernier ver en disant « Pour rire, c'est fou rire un peu ».
Oh Constance, comme c'est joli! Bravo! Merci. C'est un petit aperçu de ce qu'on peut voir sur scène dans votre spectacle Pot pourri que vous jouerez samedi à Brie-de-les-Bains et le samedi suivant, nous serons le 30 octobre à Langeais. C'est entre Tours et Angers. Constance, avec nous, à venir aussi Clara Dupont-Mono, Guillaume Meurice et l'écrivain Bérou qui est avec nous sur France Inter.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage. Alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, enchaîner. Enchaîner, enchaîner.
Par Bernard Lavillier sur France Inter. Notre invité, c'est Bérouk, le journaliste et romancier qui publie Paria chez Sabine Vespizer. Et justement, Bérouk, vos précédents romans ont été édités par une maison d'édition tunisienne, Elizad, une fameuse maison d'édition. Le fait d'être édité pour la première fois, il me semble, en France, est-ce que ça ouvre des perspectives? Est-ce que ça comptait pour vous?
Ah, je ne sais pas encore, parce que j'ai été déjà étudié par j'ai été édité par une maison d'édition en France, d'Aper, par la présence africaine. Mm-hmm. Et Elisette, c'est une maison tunisienne, mais qui travaille surtout en France.
Ouais. Donc ça change pas grand chose.
Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que, en fait, Elisette travaille beaucoup en France, mm-hmm. surtout en France, même si c'est une maison tunisienne.
Bon ben voilà, alors votre éditrice Sabine Vespizer, quelle a elle?
Non, je pense que le vrai changement dans votre carrière, c'est la venue par Jupiter.
Oui, voilà. Ben,
préparez-vous à la suite, là, mon...
Non, la rencontre de Sabine est une... La rencontre de Sabine est en lui-même un tournant.
C'est classe,
dans ma
très belle maison d'édition, bien sûr.
Oui, oui, très bien.
Alors, Bérouk, je vous présente, attention, Guillaume Meurice.
Oui, ben, comme tout le monde a l'air de vouloir une guerre civile en France, voilà, je suis allé à un salon de l'armement ce matin pour me préparer, hein, pour m'équiper. D'ailleurs, je vous rappelle que nous, selon le Figaro, on est des armes de guerre idéologiques. Donc on a toute notre place dans ce type de salon. On devrait même avoir un stand, je trouve. Hein, Alex avec des blagues de tub, voilà. Charline avec des pistolets à zob. Voilà, je propose pour l'année prochaine. Si on m'avait dit d'ailleurs un jour que je serais arme idéologique, soldat de la bien-pensance. Oh la fierté. J'ai un bac plus 2, moi, là-bas, en gestion en plus. Donc là, j'étais destiné à faire des tableurs croisés à la COGIP. Et puis là, on se retrouve, voilà, laxatif pour Finkielkraut. Quelle vie. Quelle vie, mes amis. Alors, tout ça est très beau. En route pour le beau, c'était au parc des expositions à Villepinte, là on parle de milliers de mètres carrés de matos, vraiment, hein, destiné à la bagarre, hein, pour les passionnés de tout ce qui est bagarre, hein, là, avec des gros engins pour faire quoi ?
La bagarre !
Ah, la bagarre ! Allez, c'est vrai que j'étais excité, c'est un petit peu mon Disneyland pour moi là-bas. C'est le salon Millipol et on y voit de très belles choses.
Nous on a eu plein de matériel joli.
Qu'est-ce que vous avez eu comme joli matériel ?
Tout ce qui est armes,
ouais.
Tout ce qui est défense en gros.
Il y a des belles armes ?
Belles armes, ouais.
Qu'est-ce que c'est une belle arme par rapport à une arme pas belle?
Une bien grosse arme, bien puissante.
Pourquoi ça vous plaît, ça?
Parce qu'on aime bien, on est des garçons.
Les garçons aiment bien les grosses armes, bien puissantes. On est des bonhommes, dans de gueux. C'est pas un truc de gonzesse. D'ailleurs, il y avait Darmanin ce matin. J'ai croisé Darmanin. Il avait dû confondre avec le salon de l'immobilier. Bon, allez, continuons sur les ventes d'armes avec les spécialistes.
On essaie de voir des autres pays pour vendre notre matériel.
Ben oui, mais après ils vont nous attaquer avec, si ça se trouve.
Non.
Donc faudra s'armer encore plus.
Non.
Ça s'est pas déjà vu dans l'histoire, ça?
Si.
Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Après, bon, je suis pas spécialiste non plus, mais j'ai vu que Berkoff il donnait son avis sur l'humour. Donc je me suis dit, je peux donner mon avis sur n'importe quoi. Et pour être honnête, j'avais pas attendu en fait pour le faire. Allez, retournons dans le commerce des armes.
Côté Israël, ils ont vendeurs de drones. Et en face, comment on neutralise des drones? Donc, ah voilà, en fonction, ouais. Vous achetez d'un côté ou de l'autre et ça marche, quoi.
Bon, est-ce que c'est pas complètement con, du coup?
Bah, au final, c'est celui qui a le plus d'argent qui achète le meilleur truc et voilà.
Alors, est-ce que c'est vraiment le salon de la sécurité ou est-ce que c'est le salon du pognon?
Deuxième réponse.
Alors, un petit peu d'honnêteté, voilà, ça et fait pas de mal. Cool. C'est des gens détendus, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. C'est des gens qui te vendent le problème et la solution. C'est comme si Bayer avait racheté Monsanto, vous voyez, pour guérir les cancers qu'ils provoquent eux-mêmes. Ce serait complètement dingue. Ça serait dingue. Bon, c'est comme s'il y avait désormais des arbres technologiques qui ont même plus besoin d'humains. J'ai rencontré un chef de la sécurité tunisienne passionné par ça. Par quoi ?
Tout ce qui est robotique, c'est hyper intéressant. Tout ce qui est cible mobile aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté qui fait peur dans cette espèce d'escalade technologique dans l'armement ?
Au contraire, ça facilite les choses.
Petit frisson dans le bas du dos quand même, parce qu'il était souriant, il était sympa, mais le petit, ça facilite les choses, lancé comme ça, droit dans les yeux. Ça m'a fait l'effet, un massage des pieds, mais par Didier l'Allemand. Vous voyez, il y a quand même côté douche écossaise peut-être. Ouais, voilà. Ouais. Alors, pour vendre cette nouvelle technologie militaire dans un monde qui va crever sous le CO2, il faut une caution environnementale sur tout ce qui est nouvel équipement, bien sûr.
C'est beaucoup moins polluant, c'est beaucoup moins de soufre, c'est beaucoup moins d'argent.
On peut faire du maintien de l'ordre écolo.
Oui, on l'espère.
Il y a des armes écolo maintenant.
Oui.
Est-ce qu'on peut parler d'armes vertes ?
D'armes vertes ?
Oui. Non, peut-être pas. Faut quand même pas pisser jusque-là. Ils n'en sont pas à dire qu'un corps humain, ça fait du bon compost, mais pas loin. Mais c'est vrai que la technologie en matière d'armement et de surveillance est de plus en plus évoluée. Alors, je vais pas tout vous expliquer. C'est hyper technique. Enfin, je vais pas faire mon Michel Chevalet, qui était le spécialiste scientifique à la télé. Hein. Mais là, je vous parle vraiment d'un temps où les fans d'Alex avaient à peine 65 ans. Vous voyez? Donc, je vais pas faire mon Michel Chevalet parce que qui est-ce que j'ai rencontré ce matin?
Michel Chevalet.
Michel Chevalet. Mais c'est pas vrai. Michel épaté par quoi?
C'est tous les systèmes, si vous voulez, de reconnaissance des gens. Là, vous passez sur un portique et en temps réel, il va immédiatement vous scanner et savoir si vous pouvez passer ou pas.
Est-ce que c'est pas un peu flippant, ça?
Non, mais attendez, soyons pas hypocrites.
Est-ce qu'on pense qu'on va avoir une utilisation démocratique de ce genre de nouvelles technologies?
Je crois que c'est du... Attendez.
Ah, je pose des questions.
Arrêtons, non.
Mais alors, énervé Michel Chevalet, comment ça marche? Et ben, il suffit de lui poser des questions. Voilà, c'est vraiment tout simple, lui poser des questions sur cette course à la technologie militaire.
Maintenant, on fait du satellite tueur de satellite, parce que le satellite, c'est l'une des clés dans la transmission de données et de commandement.
Est-ce qu'avec ça, on va vers plus de paix dans le monde?
Ben, je crois, c'est le principe de la paix armée. C'est-à-dire qu'on ne vient pas vous emmerder si vous avez une force de frappe, je dirais.
C'est celui qui a la plus grosse.
Attendez, vous ne vous en sentirez pas dans ce genre de débat. Ça, c'est typiquement français. Attendez, c'est une grande hypocrisie.
Ben alors, je suis assez d'accord sur l'hypocrisie. 2000 milliards de dollars de dépenses militaires au niveau mondial l'année dernière, alors qu'il faudrait quelques dizaines pour éradiquer la pauvreté. Donc, on continue de laisser crever des gens de faim tout en faisant semblant de s'équiper pour les défendre.
Eh ben voilà.
Pour résumer.
Hein, ça
pour
semble
résumer.
Simple,
voilà,
bien sûr.
Tout simplement.
Merci Guillaume Meurice.
Merci à vous.
Allez, on n'est pas déprimés, on poursuit en compagnie de Berouk. Quand un patron veut promouvoir son entreprise, il achète un encart de publicité dans le journal. Plus discutable, il peut aussi acheter un publi-reportage. Et pourquoi s'embêter alors qu'en France, on peut carrément acheter tout un journal et une radio pour faire de la pub de sa radio dans son journal. Et ça, c'est rien à côté de l'empire que Bolloré est en train de construire tranquillement au bulldozer sur les ruines du journalisme.
Non mais dites donc, ça frise la démence. Alors je suis à la tête du plus puissant organisme d'information de tout le pays. Je règne sur l'empire de l'information immédiate, instantanée, universelle. J'ai 15 téléphones, 4 téléviseurs, des magnétophones, des bigophones, des tubophones, des duplex, des triplex, des multiplex, des satellites. Je peux savoir à la seconde ce qui se passe à Moscou, à Washington, à Hong Kong ou à Caracas, mais il me faut 12 heures pour apprendre qu'on sabote la télévision à côté d'ici, presque sous mes fenêtres, en face, pour ainsi dire.
Jean Poiret dans La Grande Lessive, film de Jean-Pierre Mocky qui date de 1968. Berouk, vous avez fondé le premier journal indépendant en Mauritanie et vous êtes aujourd'hui membre de la Haute Autorité de Presse, si je ne me trompe.
Je ne suis plus.
Ah, vous ne le savez, vous ne l'êtes plus, voilà. Vous êtes complètement indépendant donc. La pratique de la presse en Mauritanie, c'est parfois pour un patron ou un commerçant d'acheter un article et donc d'acheter un journaliste. C'est nul, aujourd'hui, un patron, il peut acheter carrément un journal, en fait.
Oui, moi, si j'étais riche, j'aime tellement la presse que j'achèterais plein de journaux. Non, en vérité, en Afrique, c'est monnaie courante. On achète, inutile d'acheter des journalistes. C'est inutile d'acheter tout un journal. On achètera un journaliste. Mmh. Ça coûte moins cher.
On achète et l'espace et le
oui,
reportage.
Oui, oui, non, pas seulement l'espace. Mmh. On achète le journaliste.
Ah, on le paye.
On achète ce qu'il va écrire. On achète un avocat au milieu du journal. Et c'est pratique courante, la corruption dans le journalisme en Afrique.
C'est pour ça que vous avez quitté la Haute Autorité de la Presse? C'était pas
non,
gérable?
Non, je n'ai pas quitté à cause de ça. J'ai fait un mandat, je devais faire mandat. Et je suis parti, je devais
et
faire un mandat.
Ça marche comme ça, donc déontologiquement, la déontologie, non. L'éthique, elle est très très faible.
Elle est très faible, bien sûr, il y a certains journalistes qui respectent l'éthique, il y a des journalistes très sérieux, mais il y a beaucoup de journalistes qui sont foncièrement corrompus. Et tout le monde le sait.
Ouais. Et c'est pour ça que vous avez fondé un journal indépendant, vous? C'était pour
non, j'ai défendu, en fait, dans les années, à la fin des années 80, en fait, pour des raisons politiques. C'était l'année des grandes émulations, c'était l'année des grands espoirs en Afrique, des grandes années quand on rêvait de démocratie, d'une véritable démocratie. Et c'est dans ce sens que j'ai
que j'ai créé en Mauritanie demain. Ah oui.
Et que vous avez été parfois inquiété par le pouvoir qui t'a presque allé en prison.
Oui, bien sûr, j'ai été censuré, j'ai été inquiété par ça, ça fait partie du jeu.
Il n'y a pas d'école de journalisme alors ?
Il y a maintenant l'école de journalisme, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas tellement c'est pas tellement fort comme école.
Ça mériterait du soutien.
Ah oui, ça mériterait des nouveaux professeurs, ça mériterait de nouveaux moyens.
Et quelles conséquences ça a sur la société mauritanienne, ça, le fait que la presse soit en partie corrompue, qu'on achète des articles, qu'il n'y ait pas beaucoup de déontologie et qu'il n'y ait pas d'école de journalisme.
Conséquences sur la... Je crois que leurs conséquences, c'est surtout sur un petit nombre de gens qui vivent en Nouakchott, qui gravitent autour du pouvoir, et c'est eux qui s'intéressent à la presse. Mm-hmm. Je crois que la population ne s'intéresse pas à la presse mauritanienne. Elle a d'autres moyens de communication.
Elle écoute RFI, par exemple ?
Le Mauritanien moyen, je ne crois pas qu'il écoute RFI en français, non. Il n'écoute pas, très peu. Depuis qu'on a fait l'arabisation des années 80, très peu de gens maintenant écoutent en français. Les jeunes surtout pas.
Ouais.
Les jeunes surtout pas. Le français a beaucoup reculé ces dernières années.
Alors, on va en parler dans le sujet suivant, mais revenons d'abord à votre roman, Bérouk, avec Lara Dupont-Monod.
Oui, Bérouk, car je vais lier votre livre à une actualité, c'est-à-dire qu'en ce moment à Paris, dans le 15e arrondissement, se joue la fermeture d'une école qu'on appelle inclusive, c'est-à-dire qui mélangeait dans les classes des enfants handicapés avec les autres. Cette école, elle est privée, puisque le service public ne se risquerait pas à de tels mélanges, et tout se passait bien, les enfants non handicapés trouvaient complètement normal d'aller chez leurs copains, trisomiques ou autistes, le mercredi. Cette école s'appelle les Saints-Anges, elle appartient à une baronne, à la baronne de Saint-Didier, et ça fait beaucoup de saints pour une conduite bien peu biblique, puisque la baronne a décidé de supprimer l'école. Elle s'est lassée. C'est ainsi que 300 familles ont actuellement leurs petits handicapés qui seront bientôt privés de structure sans que ça n'émeuve plus que ça les autorités concernées. Tout ça pour vous dire, Bérouk, que nous avons en ce moment, sous nos yeux, avec cette actualité, l'exacte illustration de ce que vous avez littérairement traduit avec Paria, votre roman. Vous avez écrit la fabrication des parias. Avec vos personnages, un homme et son fils, vous décrivez une logique qui donc, hélas, est valable dans tous les pays et qui touche tout le monde. Vos personnages à vous ont ceci de particulier qu'ils sont doublement écartés. Le père par sa pauvreté et par sa peine de prison, et le fils par sa pauvreté et par son statut d'enfant de criminel. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, en fait, ils se bagarrent contre ce statut de paria. Vous avez écrit moins la condition de paria elle-même que la lutte menée contre elle. Alors, la lutte, d'accord, mais avec quelles armes ? Eh bien, par exemple, pour cacher son statut de paria pauvre, le père dit à sa femme qu'il est très riche et qu'elle aura la belle vie. Ou alors, autre arme, il interdit à son fils de venir le voir en prison parce qu'il faut tourner le dos à cette vie de paria, regarder devant et bâtir sa vie. Ces deux réactions du père, le mensonge et l'interdiction, sont finalement deux légitimes défenses face à l'exclusion. C'est l'équivalent littéraire, là encore, des parents des enfants de l'école dont je parlais tout à l'heure, qui, il y a quelques jours, ont perturbé le gala de charité de la baronne, puisqu'il y avait un gala de bienfaisance. Mais à chaque fois, c'est ça, il s'agit de se battre pour avoir une place. Et quant au fils de votre roman, qui est tout petit, lui, il a tout perdu. À partir du soir où son père a commis son crime, il s'est retrouvé sans parents, sans sa petite sœur, emmené par un oncle, dans la rue, il a plus rien. Du coup, lui, il fraude la délinquance, il joue avec les règles, et ceci revient presque à faire mousser le statut de paria, c'est-à-dire, en gros, puisque je suis refusé de partout, je brandis ce refus, il sera mon étendard et mon identité. Alors ce qui le sauve, ce petit, c'est que gronde en lui, quand même, le souvenir du désert, des bédouins, d'où vient son père. Et là, ce ne sont plus des parias, ce sont des gens qui ont choisi le désert. Vous dites être bédouin non par nécessité, mais par vertu. Et cette décision fait d'eux des itinérants et non plus des errants, des parallèles beaucoup plus que des rejetés. Et vos bédouins m'ont fait penser à un poème de Guillaume Apollinaire, que j'aime tellement, qui s'appelle « Élégie du voyageur aux pieds blessés ». Rien que le titre, il est magnifique. Je le cite « Marche le gars, marche en gaieté, ce calme jour d'un jour d'été, où sauf la source, tout se tait ». Vous entendez, ça évoque le calme du Sahara, la marche vers la source. Et en fait, vos voyageurs ont les pieds blessés, comme chez Apollinaire, mais ils ont l'âme intacte. Et c'est ça que comprend le fils de votre livre. Et c'est bien ça que devraient comprendre certaines baronnes à qui nous ne manquerons pas d'envoyer votre livre. Je vous redonne les références. Paria de Bérouc est paru aux éditions Sabine Vespizer.
Merci Clara Dupont-Monod.
Pour une fois qu'une actualité correspond à ça.
On était très surpris.
Le roman de Bérouc avec comme une mélopée dans la lamentation du personnage du père dans votre
instinct. J'en fais cadeau aux parents des jeunes handicapés et aux handicapés.
On transmettra Bérouc. Ouais. On va aborder ce dernier sujet avec vous. Aujourd'hui, y a-t-il plus de touristes dans l'espace qu'en Mauritanie? Pas loin. Le tourisme repart, paraît-il, timidement, d'après le journal Le Monde, alors que la Mauritanie était une destination assez prisée des Français qui avaient les moyens, dans les années 90 et 2000. Et puis le terrorisme a tué les uns et chassé les autres. Et les bagnoles du Paris-Dakar, par exemple, qui traversaient le désert mauritanien, braquaient les caméras aussi sur le pays à l'époque, rappelez-vous.
500 connards sur la Paris-Dakar, 500 blaireaux sur leur moto, ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Rallye mécanique, les Mad Max de bazar, a recommencé son cirque au soleil de janvier. Qu'on traversait l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzer. Ravi de cette obsession.
Renaud, bien sûr. Alors Bérouc, c'est vrai que le Paris-Dakar, il plaçait bien la Mauritanie sur la carte. Pas toujours pour des bonnes raisons. Pour beaucoup de Français. Et ceux qui rêvaient de dunes et qui avaient la thune, ils se rendaient en voyage en Mauritanie. Est-ce que ça, effectivement, ça repart timidement aujourd'hui?
Oui, le tourisme, oui, il repart timidement. Il repartira à partir de ce mois de décembre. Je crois que le 18 décembre, il y a un vol direct pour Attar, Paris-Attar.
Qui est rétabli donc.
Oui, qui s'est rétabli. Dans le Nord, ils ont senti une certaine... d'avoir été un peu traité comme pestiféré alors qu'il ne l'était pas. Parce que le terrorisme existe dans la région.
Mais la région c'est frontalier avec le Mali, on rappelle.
Mais la région même où il y avait où s'est développé le tourisme, ça veut dire Attar, Chinguetti, Oualadan, c'est une région qui n'a pas connu de problème depuis au moins de 100 ans. Donc,
qui était classée en zone rouge quand même par le Quai d'Orsay.
Elle a été classée en zone rouge. Et depuis quelques années, ça reprend. Ça s'est arrêté à cause du Covid. Maintenant ça reprend peut-être difficilement parce que entre temps beaucoup d'investissements, beaucoup de gens qui ont investi se sont retirés. Entre temps beaucoup de professionnels du tourisme sont allés ailleurs chercher du boulot. Entre temps la population s'est déshabituée un peu à voir les touristes. Certains restaurants ont fermé, certaines boutiques ont fermé. Ça va se reprendre petit à petit. Mais il y a quelque chose qui reste. C'est que l'amour du désert et l'amour des vieilles villes. Parce que là-bas, le tourisme mauritanien, c'est pas seulement les déserts, c'est aussi des villes comme Chinguetti et Oualadan, des villes millénaires, qui renferment de fabuleux manuscrits.
Oui. Et elles peuvent continuer à être entretenues? Ce potentiel culturel, il continue à être entretenu?
Oui, il continue à être entretenu. Il y a une lutte implacable qui doit toujours être menée contre la désertification. Parce que c'est l'avancée du désert qui est dangereux pour ces villes-là. Mais ce sont des villes qui ont vécu 1000 ans. Elles supporteront bien quelques années encore.
D'accord. Donc on pourra bientôt faire une émission en Mauritanie. La liaison rétablie, vous nous accueillez, vous nous ferez
oui,
visiter.
Oui, tout à fait. Surtout que dans ces villes, à la fin de l'année, il y a un grand festival du patrimoine dans les villes anciennes.
Ah, ben voilà.
C'est un grand festival du patrimoine qui attire au pouls. D'abord, beaucoup de population mauritanienne, mais aussi qui attirera certainement beaucoup de touristes.
Bérouc, Alex Vizorek a préparé pour vous un questionnaire de par Jupi Proust.
Eh oui, des questions courtes, des réponses qui le sont à peu près tout autant. Sur l'échelle de 0 à 10 du journaliste star, 10 étant Laurent Delahousse, pardon, 0 étant Laetitia Gaillet, à combien vous situez-vous en Mauritanie?
0.
Il n'y a pas de star.
À quel journaliste français aimeriez-vous donner des cours de déontologie?
Aucun.
Vous simplifiez la vie. À quel écrivain français aimeriez-vous donner des cours de littérature?
je ne peux pas en donner parce que tous les écrivains que j'aime beaucoup sont déjà morts.
Très bien, mais c'était pas un que vous aimiez beaucoup qu'il fallait citer, je pense. Si vous deviez faire un Paris Nouakchott avec Emmanuel Macron, de quoi lui parleriez-vous ?
De l'Afrique, de l'islam, et des cités difficiles de France.
Monsieur aime le risque.
Si vous deviez faire un Nouakchott Paris avec Mohamed Oud El Ghazouani, le président mauritanien, vous lui parleriez de quoi ?
De culture. De culture.
Ouais,
de culture,
j'ai compris,
traditionnelle.
Ouais.
De culture mauritanienne. Mm. Typiquement mauritanienne qui est mal connue à l'extérieur. De la nécessité de donner l'image que nous méritons, l'image culturelle, les particularités, et de faire ressortir les particularités culturelles de la Mauritanie et notre aspect saharien.
Vous êtes originaire d'Attar en Mauritanie. Diriez-vous qu'il vaut mieux être né Attar que N'Djamena au Tchad, ou vous n'aimez pas les jeux de mots?
Ça ne pose pas de problème. De toute façon, j'estime qu'Attar est la plus belle ville du monde. Donc
on est tranquille. Allez, la petite dernière, vous devez choisir. Soit l'équipe de foot mauritanienne se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde, soit vous remportez le prix Goncourt.
Je peux pas avoir les deux.
Ah voilà, regardez comment il est.
Berouk, merci beaucoup d'être passé par chez nous. Je rappelle, votre roman intitulé Paria est paru chez Sabine Vespizer, éditeur. Je vous remercie beaucoup, Berouk.
Merci, j'étais ravi d'être là.
Mais nous aussi, on était ravis de vous accueillir.
Et continuez vos conneries, je les adore.
Bonne fin de séjour en France et bon retour à Nouakchott. Merci. C'est la fin de cette émission, les amis. Je vous dis à demain pour un Parjupiclass, l'école de Parjupiter.
Tout ce qui se passe à l'école sera condamné dans la future société révolutionnaire comme étant du bruit socialement nocif.
Voilà, c'est ça le jeu.